Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Elle veut me dire, mais passe-moi le biberon, donc là où elle avait tiré son lait. Et à la place de dire ça, elle dit, mais mon père et ma sage-femme vont arriver. Quelque chose qui n'a rien à voir. Et je la regarde vraiment, bon, mais quoi? Et là, je me dis, bah, elle est déshydratée, elle est fatiguée, bon. Et moi, j'envoie un message à sa sage-femme et je lui dis, bah, Sarah est désorientée, elle me dit des phrases qui n'ont pas de sens. Et donc, juste avec cette description-là de désorienter des propos non cohérents, et là, elle me dit, allez aux urgences. Direct. Elle me dit, allez aux urgences.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
On est donc avec Raphaël. Salut !
Hello !
Comment ça va ?
Très bien.
Raphaël, pour réexpliquer un petit peu le contexte de cette interview, ça fait déjà très plaisir que tu sois là, c'est vraiment très cool.
Merci.
Tu m'as effectivement envoyé un premier mail en 2018, si je me trompe
c'est
pas,
ça,
il y a exactement. 3 ans,
ouais.
Octobre 2018 d'ailleurs,
ouais.
Et tu m'as renvoyé un autre mail le lendemain, je crois, hein, si je me trompe pas.
Peut-être.
Je ne sais plus. Où tu me disais que... Enfin, donc tu m'as raconté ton histoire, dont on va parler juste
ouais.
après, et tu me disais, ok, alors, en fait, ma femme n'était pas tout à fait prête à ce que je partage,
ouais.
mon, je partage mon histoire, etc. Et en fait, bah, t'es pas le premier, tu vois, comme je te le disais, t'es pas le premier à m'envoyer ce genre de message, parce que je crois qu'il y a pas mal de pères qui m'écrivent sans vraiment avoir... l'intention de passer au micro alors qu'il le formule pas aussi clairement que ça, tu vois,
ouais.
et qui me raconte tout le truc et puis et qui en fait à un moment donné finissent un peu surpris quand je leur dis bah en fait viens parler dans l'histoire quoi, tu vois, viens parler dans mon micro. Ah bon, d'accord. Et en fait je me demandais à quel point toi t'avais aussi ce besoin à un moment donné, tu vois, de décharger, de raconter.
Alors, oui, alors, ça s'est pas passé exactement
okay.
comme ça, et c'est assez amusant parce que du coup, je suis assez content parce qu'on n'a pas le même souvenir
okay.
de cet échange. Effectivement, je t'ai écrit un long mail pour t'expliquer la situation, parce qu'en fait, c'était une situation très compliquée, mais j'étais assez fier de moi, et justement, comme t'avais eu des invités qui avaient expliqué des situations un peu compliquées, et que moi, ça m'avait aidé également de voir, bah oui, on peut surmonter
ouais.
certaines épreuves, je voulais aussi échanger et partager et donner cette expérience-là. Et en fait, l'email était effectivement très long pour t'expliquer la situation. Et
j'ai pas tout lu.
Mais oui,
comme d'habitude.
Et à la fin de l'email, je te dis, bon, par contre, j'ai juste une problématique. Ma femme est pas d'accord pour l'instant. Mais si ça t'intéresse, moi, je vais la convaincre, ma femme.
Okay.
Et en fait, donc, du coup, quand tu m'avais renvoyé un email, tu m'avais répondu en me disant, j'ai pas tout lu, viens en parler. Et c'est là où j'ai dit, oh mince, mais attends, à la fin, je te disais que justement,
okay.
Voilà. Et après, il n'y a pas eu d'autres échanges. Et
okay.
moi, en fait, et j'en avais reparlé à un ami, et il m'a dit, mais oui, mais tu refiles la responsabilité de parler de ton histoire à une autre personne, c'est pas à elle de prendre cette responsabilité-là. Et c'est vrai que je m'étais senti un peu bête, et je me suis dit, oh bah mince, j'ai mal formulé les choses, voilà.
Mais t'es pas bête.
Oui, c'est une façon de parler.
Oui.
Et comme de toute façon vis-à-vis de ma femme, j'avais poussé un peu la discussion. Et effectivement, elle n'était pas prête à échanger sur le sujet. Elle n'était pas prête à et je pourrais plus développer cet aspect-là. Elle n'était pas prête encore à échanger sur tout ça parce que pour elle, ça a été un tel chamboulement. Et une telle différence entre
l'avant-après.
Ce qu'elle était avant et ce qu'elle a été pendant, que pour elle, elle n'était pas prête à même si je lui disais c'est pour parler de mon expérience de père, forcément j'allais parler également de ce qui lui arrivait à elle, et donc c'était compliqué.
Et là, trois ans plus tard,
exactement.
Te revoilà.
Exactement, et parce qu'il y a eu un événement en juillet de cette année qui a fait qu'on a réussi à tourner la page complètement. Okay. Enfin, complètement. Il va toujours rester quelque chose, mais on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et surtout ma femme, et ça a permis, oui, de la retirer. Et donc elle était bien, et puis moi je lui ai dit, bah écoute, moi peut-être que pour tourner complètement la page, j'ai besoin de parler de ce petit moment, ce partage d'expérience, j'ai peut-être envie de vraiment de le faire, et de le faire sur, voilà, sur le podcast.
Je vais recontacter Fab.
Voilà, exactement.
Donc pour expliquer très rapidement, mais encore une fois, moi j'ai vraiment lu ton histoire, ta femme, donc ce qui s'appelle Sarah,
tout à fait.
A fait un AVC, 5 jours, après
10 jours
après son accouchement.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, pour poser un peu
pour
le truc.
Poser le sujet.
Et toi, tu t'es retrouvé avec donc un bébé nouveau-né et ta femme qui était potentiellement en train de mourir, j'imagine. Enfin, je sais pas.
Alors,
à quel point
tu
c'est.
Tu t'imagines tout. Enfin, quand le jour même, tu t'imagines tout et tu t'imagines le pire et c'est une tempête quoi ce jour-là. Je me souviens de tout très précisément.
On va en parler, hein, si tu veux bien.
Ouais,
on
bien
va
sûr.
Revenir dans l'ordre chronologique, parce que tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'idée et l'envie d'avoir un enfant, de devenir papa, quoi?
Alors, moi, cette envie, je l'avais depuis très longtemps, d'être papa, mais je l'avais pour des mauvaises raisons, au début. Je l'avais pour des mauvaises raisons parce que... la relation que j'ai eue avec mon père a été très très compliquée dans mon enfance parce que c'était un père qui, même si physiquement il était présent, il était pas présent dans les actes, les paroles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est qui m'a beaucoup perturbé longtemps, et j'avais plus un sentiment de revanche de dire je vais mieux faire. Je trouve que ma relation avec mon père s'est nettement améliorée à l'âge adulte, et surtout moi-même j'ai réussi à comprendre certaines choses du pourquoi de comment
pourquoi il a agi comme ça.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
C'est toujours éclairant de se passer de l'autre côté de la barrière et de se faire
je l'ai fait avant ce travail-là.
Okay, d'accord.
Je l'ai fait avant et justement ça a été plus d'avoir réussi moi personnellement à mettre des choses derrière moi. En fait, concrètement, j'étais en train de porter les valises de mes parents et à un moment je me suis dit, mais en fait c'est pas à moi de les porter, je vais les poser là, elles vont rester là, et puis je vais continuer ma vie et je vais surtout me recentrer sur moi-même et qui je suis, quoi.
Ce qui est un très chouette chemin à faire.
Ouais.
Très libérateur, j'imagine.
J'ai beaucoup aimé. et voilà, et je m'entends bien avec mes parents et je leur reproche absolument rien parce que c'est de l'inconscience et c'est du vécu de chacun. Et donc ensuite, l'envie d'être père s'est transformée en vraiment, j'ai envie de construire avec Sarah un foyer, une famille. Et c'était les étapes naturelles, en fait, en tout cas pour moi, évidentes, sans forcément dire le mot naturel, les étapes évidentes de ce qu'il fallait faire par la suite, quoi.
Comment se passe la grossesse de Sarah?
J'arrive pas à trouver le mot.
Excellemment bien, t'allais
voilà,
dire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, c'est pas français. Donc, c'était merveilleux. La grossesse en elle-même était, c'est vraiment très très bien passé. Moi, le regret que j'ai eu, c'est que les grossesses sont très médicalisées avec beaucoup de tests, beaucoup d'hypothèses, oui, bah alors on va vous faire le test de machin pour voir si il y a une chance sur 1 million que le bébé ait ça. Ce qui rajoutait un peu de stress là où on aurait pu ne pas du tout en avoir sur le, ouais, ne ne pas en avoir, quoi. Et,
ah, tu es contre ce genre de test, toi ?
Non, je ne suis pas contre, mais je pense que tous les médecins et tout le personnel soignant, aussi merveilleux soit-il dans leur action, leur acte, dans la communication, ils ne sont pas forcément très efficaces.
Tu veux dire qu'ils pourraient faire ces tests sans vous dire qu'il faut faire ces tests ?
Alors,
en les faisant...
Ou en les présentant de manière différente, en fait. Parce que c'est vrai que... on se retrouve parfois... avoir vraiment l'impression que ça va être la fin du monde et qu'il faut absolument... Il y a un sentiment d'urgence parfois. Le problème, c'est qu'en plus, le temps est passé et du coup, j'ai oublié certains détails. Mais il y avait le test, je crois, c'était pour détecter la trisomie. Concrètement, alors la gynécologue de ma femme a été merveilleuse tout du long, mais c'est vrai que ce jour-là où j'ai assisté au rendez-vous où il fallait absolument faire le jour même, il y a un labo à côté, allez-y vraiment. On avait plus l'impression que oui, il faut se décider parce que si c'est négatif, là, il va falloir faire un choix de vie et de mort, quoi,
okay.
Dans les 24 heures. Donc c'est vrai que c'est utile, il faut le faire effectivement. Mais juste un côté un peu un discours, je pense, ou une communication peut-être plus adaptée.
On vous aime beaucoup, hein, les gens qui nous écoutent et qui vous occupez d'une manière générale des jeunes parents. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a un truc aussi, c'est compliqué. On n'a pas formé les médecins et les toubibs à la communication et à l'empathie. Et c'est un truc qu'ils doivent apprendre sur le terrain. Et après, soit ils l'ont pas, et parfois même avec le stress, etc. Enfin, j'imagine au quotidien, c'est pas forcément évident de prendre ça en compte.
C'est ça.
Je vois bien.
Oui, et puis après, on est tous, chacun est différent par rapport à tout ça.
Merci de le dire, parce que je crois que c'est important, et c'est vraiment en le disant que tu peux aussi faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils sont en train de faire, quoi, tu vois. Donc, ok. Donc la grossesse s'est très bien passée.
Ouais. Et ça, c'était vraiment, des très très bons souvenirs.
Pardon, mais j'allais te dire, toi, tu te rends compte que tu vas devenir papa ? Est-ce que tu prends conscience ?
Je prends conscience petit à petit, effectivement, pas dès le départ, on est d'accord. Parce que ça se passe pas en nous, quoi. c'est Sarah qui avait... Alors, on s'intéressait... Un peu, alors je vais peut-être mal prononcer le mot. On s'intéressait à l'aptonomie.
À l'aptonomie, oui, voilà. Tout à fait.
Sans vraiment le faire ou avoir fait des séances avec une sage-femme ou autre, mais on s'y intéressait. Donc j'essayais de temps en temps poser la main, parler. Histoire de ressentir un peu à chaque fois qu'elle sentait que le bébé bougeait, j'essayais de le sentir aussi. Mais effectivement, le moment où vraiment je me suis senti père et au moment où vraiment j'ai pris conscience de tout, réellement, c'est au moment de l'accouchement.
Le jour J.
C'est le jour J. Avant, en plus, je suis quelqu'un qui me détache très rapidement de tout ce qui pourrait me provoquer une émotion forte et une attente forte.
T'as
donc
été servi, j'imagine.
Je me blinde un max pour pas avoir une attente qui me générerait une frustration si ce que j'attends n'arrive pas.
Ok.
Et d'ailleurs, ça peut...
Oui, je crois qu'on va... je crois qu'on va en parler.
Oui.
Parce que bon, en fait, je crois aussi qu'il y a un truc terrible chez les pères, tu vois, et chez les mecs, d'une manière générale, c'est que c'est un truc très masculin. On t'apprend ça, en fait. Ne fais pas trop d'émotions. Les émotions fortes, c'est chiant. Ouais. Les émotions négatives, t'en veux pas. Mm-hmm. Et de ce fait-là, bah, tu finis par avoir le moins d'émotions possible. Même les émotions cool, elles finissent par...
C'est vrai.
Et je viens de là, hein, vraiment, donc je peux t'en parler. Mais en fait, c'est fou parce qu'une fois que tu fais un enfant, La vie ça... te rappelle à... Et dis donc, c'est le moment jamais d'avoir des émotions, frère.
C'est ça. Et puis ça ouvre des vannes, hein. Concrètement, j'ai jamais autant pleuré devant des films et des séries que depuis que je suis papa. Hein.
Alors, quel est le film sur lequel t'as le plus pleuré depuis que t'es papa?
Alors, pas des films, en fait, plutôt des séries.
Ouais.
Très bêtement des choses très qui sont pas censées être mais sur des épisodes de Modern Family okay. Justement sur la famille et la paternité ou genre de choses où effectivement de temps en temps après je c'est pas des chaudes larmes quoi mais voilà mais c'est vrai que y a un film aussi alors lui il m'avait provoqué des larmes avant que je sois papa mais j'ai raconter le film et la fin récemment et je me suis absenté de la pièce pour pleurer quoi. Parce que c'est Blue Valentine avec Ryan Gosling
okay.
Et je ne me souviens plus du nom de cette actrice et je sais pas si tu vois de quoi
non,
parle ce
non,
film
non pas du tout
on voit en parallèle l'histoire d'amour qui se construit entre Ryan Gosling, enfin les deux personnages, quoi, et la fin de leur histoire, complètement en parallèle. Et en fait, la fin, et je vais spoiler un peu...
spoiler alerte.
Voilà, spoiler alerte, là, pour le coup, mais c'est pour expliquer pourquoi ça m'a provoqué cette émotion, c'est qu'à la fin... le film se finit avec la relation qui se termine. Alors qu'on a vu effectivement en parallèle cette magnifique histoire d'amour commencer. Et donc les deux décident bon bah c'est fini, je m'en vais. Voilà. Il change de pièce et il voit sa fille. Et j'ai l'émotion qui monte en même temps en parlant. Il voit sa fille et il doit expliquer à sa fille la décision qu'il vient de prendre de quitter sa mère. Enfin. C'est pas lui d'ailleurs qui quitte sa mère, c'est d'un commun accord.
Ouais.
Et il doit l'expliquer à sa fille, qui a, je crois, 6 ans ou 7 ans dans l'histoire. Et je me dis, waouh, là, c'est. Comment tu fais, quoi? Et voilà. Donc.
Ok. Eh bien, écoute, Blue Valentine, c'est noté. Si vous voulez les chialer, les darons.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est le moment ou jamais. Ok. Pour revenir à ton histoire. Tu racontes que tu te rends compte que t'es papa le jour de l'accouchement. Comment se passe l'accouchement? L'accouchement se passe bien?
Alors, c'est là où, justement, jusqu'à l'accouchement, tout se passait bien. On était sur quelque chose de merveilleux. Et puis l'accouchement en lui-même, moi je me rends... Alors que je suis là, je me rends pas compte en fait qu'il y a une problématique. Ma femme pousse pendant trop longtemps. Parce que en fait, mon fils Hugo, c'est un gros bébé, ouais. C'est un très très gros bébé, et elle a beaucoup de mal donc à l'expulser, voilà, exactement,
à le faire naître.
Et ils sont obligés donc d'utiliser des cuillères. Il y a, alors je ne me souviens plus du terme médical maintenant.
Les forceps, non, c'est pas ça.
Non. Oui, enfin c'est des forceps, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il y a un déchirement. Comment on appelle ça? Épisiotomie.
Ouais.
Voilà.
On adore ça. Enfin, non, l'épisiotomie, c'est contrôlé justement. C'est.
D'accord. Alors non, donc c'est pas contrôlé justement. Et donc voilà, donc il y a quelques problématiques, c'est pas très très grave.
Moi perso, je dirais pas ça. Je détesterais me faire déchirer quoi que ce soit là en bas, quoi, tu vois. Donc
oui, c'est grave, mais ça pourrait être pire. Enfin, sais pas trop
par
comment.
Par rapport à ce qui arrive plus tard,
voilà, c'est ça.
C'est moins grave.
Mais d'ailleurs, c'est très certainement lié en fait. Et même mon fils, en fait, il se casse la clavicule. En sortant. Mmh. Apparemment, c'est pas si rare que ça aussi.
Ouais, c'est assez classique. Voilà. Faut remettre les épaules en place.
C'est ça. Bah là, c'est vraiment une fracture.
Ah putain. Ah oui, car.
Ouf. Ah oui, c'est une fracture qui est là. Et voilà. Mais après, il est là. C'est merveilleux.
Raconte-moi ton émotion en fait quand tu découvres. Ouais. Désolé, je vais aller chercher tes émotions fortes. Hein. Tu sais pourquoi t'as signé. Hein.
Allons-y. Il y a ce petit être qui apparaît, qui était pas là une seconde avant et qui d'un coup est là. Surtout qu'en fait, moi, je me suis. Alors en plus, c'est toujours les conseils, je pense, qui sont donnés. C'est regardez pas par là, le papa il regarde pas par là, vous. Et moi j'étais concentré sur Sarah, quoi. Je lui tenais la main, je l'encourageais, je voyais son visage passer dans des expressions que je n'avais jamais vues de ma vie, tellement l'effort est intense. Et donc en fait, quand Hugo arrive et que la sage-femme le pose sur Sarah, c'est limite une surprise. Je sais qu'il devait arriver, mais c'est limite une surprise. Oh, il est là et il est beau et oui, c'est une explosion d'émotion en soi. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se il y a un univers qui s'ouvre, quoi. C'est le champ des possibles, c'est toutes les possibilités qui apparaissent face à moi et juste ce petit être merveilleux et cette addition de Sarah et moi et voilà et après je l'ai pas quitté des yeux mais jusqu'au moment où on m'a dit non mais là il faut qu'on s'occupe de lui monsieur. C'était à tel point que donc du coup bah eux ils avaient encore beaucoup de choses à la sage-femme et tout le corps médical qui était là, je sais plus les mots.
Oui, ils avaient
l'obstétricienne, voilà, il y avait une obstétricienne, il y avait et donc ils l'ont posé sur la couveuse avec la lampe donc et puis moi limite au début bah, je me mettais vraiment au-dessus de lui et il y a un moment où je sentais vraiment mes cheveux surchauffer, je me suis dit ah mais non mais en fait je suis en train d'empêcher
de faire le travail
et voilà et après ils sont venus ils ont voulu le peser tout ça, d'ailleurs c'était assez amusant donc la sage-femme le récupère, elle le pèse. Elle voit le résultat, elle fait non, c'est sûr, la machine, elle fonctionne pas. Donc elle demande à une infirmière d'aller chercher une autre balance. Et effectivement, il y avait 1,5 kg de différence. Et l'expérience de la sage-femme faisait qu'elle se disait non, là, il peut pas faire.
Okay.
Alors j'ai plus le poids en tête. Je l'ai su pendant des mois et des mois. Mais il était très proche des 5 kilos.
Oui, un beau bébé.
Ouais. Peut-être quelque chose de 4,7 kg ou un truc du genre.
Ok.
Voilà. Ouais. Et puis, oui, là, pour le coup, ouais, beaucoup d'émotions. L'envie d'en parler à tout le monde, l'envie de partager l'expérience, les sentiments avec la famille, quoi, de pouvoir les voir, etc. On était en plus dans une maternité, c'était très très bien, il y avait un lit pour les papas. Ouais. Les papas pouvaient rester, donc on est vraiment resté. Alors il y a eu un problème de prise de poids, donc on est resté une journée supplémentaire. Mais du coup, enfin voilà, c'était parfait. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement être là sur les premiers moments, c'est vraiment merveilleux. Apprendre tout, enfin prendre les premiers gestes, et puis. Moi, à chaque fois qu'on me présentait un bébé, je voulais jamais porter un bébé. J'avais l'impression que j'allais le casser. Et je m'étais dit, mais ça va être la même chose avec mon fils. Il va falloir quand même que je me force un peu. Et en fait, non, pas du tout. C'est venu tout de suite. C'était mon fils. Oui, j'allais pas le casser. J'allais pas. Et c'est amusant.
La nature est bien faite. Hein.
Oui, c'est ça. Exactement.
Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? À quel moment, en fait, il se passe cet accident, quoi. Alors, tu disais dix jours après, c'est ça?
Dix jours après, c'est. En fait, on pense même qu'il y a eu un petit événement annonciateur quelques jours avant, peut-être 3 jours avant, mais j'en suis pas sûr. Mais bon, okay. Ma femme essayait d'allaiter. Ça a été très très compliqué. On a fait appel à une sage-femme spécialisée en lactation, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc elle tirait son lait, et puis on était vraiment dans. On voulait que ça réussisse, quoi. On voulait vraiment que. J'allais dire, on voulait vraiment qu'on allaite. Je faisais vraiment. Je faisais partie de l'équipe, quoi. J'étais à fond. Et donc ce matin-là, donc Hugo se réveille, il devait être 6h du matin. On était tous décalqués parce que on faisait des nuits assez courtes de 3h généralement. On se relayait pas mal à cette époque-là. On était mais vraiment très fatigués. Et là, elle veut me dire. Alors je me souviens pas exactement de la phrase, mais l'idée est là. Mais elle veut me dire, mais passe-moi le biberon, donc là où elle avait tiré son lait, parce qu'elle n'arrivait pas donc à lui donner son lait de son sein. Et à la place de dire ça, elle dit, mais mon père et ma sage-femme vont arriver. Quelque chose qui n'a rien à voir. C'est vraiment, je crois que c'était cette phrase-là ou presque cette phrase-là. Et je la regarde vraiment dans, mais quoi ? Je comprenais bien qu'elle me demandait le biberon, mais la phrase à côté était. Et elle était complètement désorientée. Et. Encore l'émotion qui arrive.
T'inquiète, t'as le droit. Ça n'est pas sale.
Non. Et là, je me dis, elle est déshydratée, elle est fatiguée. Donc je lui passe le biberon. Elle comprend pas qu'elle a dit une phrase qui n'avait pas de sens. Elle s'énerve, elle s'exaspère. On était fatigués. Et moi j'envoie un message à sa sage-femme parce qu'on communiquait beaucoup lié à l'allaitement. Donc on avait une facilité de communiquer tous les trois par SMS. Je digresse une petite parenthèse. Sage-femme notamment, elle faisait des séances pour les pères. Pour préparer, et ça a été une séance.
En non-mixité, tu veux dire qu'avec que des pères, c'est ça ?
Avec que des pères, okay. Ouais, tout à fait.
Très intéressant.
Vraiment, vraiment juste
pour les darons,
pour qu'ils posent les questions, sans tabou, et qu'elle donne des explications.
Ça m'intéresse, au bout de combien de temps la glace s'est brisée entre vous ? Est-ce que c'est venu très vite, entre mecs ?
Lors de la séance,
lors de cette fameuse séance,
très très vite, parce qu'on était très volontaires en fait.
Okay.
On était une bande de pères qui, si on voulait faire cette séance, c'était vraiment parce qu'on voulait y aller et poser des questions. Donc ça a été assez rapide. Ouais. Mais Oui, mais c'est là aussi où moi je me disais, on est quand même d'une autre génération de darons. On a peut-être plus d'ouverture d'esprit, plus de...
Bah oui.
Enfin voilà, donc...
Bah tu viens faire un truc que j'imagine ton père n'a jamais fait, et
non,
que tu vois, ne serait-ce que ça là, tu vois, ce que tu es en train de faire là, c'est...
Ouais, ouais.
Ça n'existe pas.
Non. Mais ça, par rapport à mon père, il y aurait beaucoup de choses à dire,
okay.
mais qui sont des choses très, qui lui sont très personnelles. Donc,
Donc t'envoies un SMS à ta sage-femme,
voilà,
pour lui dire quoi ?
Et je lui dis, Sarah vient de me dire Sarah est désorientée, elle me dit des phrases qui n'ont pas de sens.
Elle t'en a dit plusieurs, c'est ça ? Elle t'a pas dit que celle-là ?
Non, elle m'a dit que celle-ci, moi, en fait. Elle m'a vraiment dit que celle-ci, mais elle était désorientée. Et après, bon, elle était fatiguée, puis moi-même, et je pense que ça, c'est un sujet que je veux aussi aborder, fatiguée, tout ça, moi, j'ai pas de patience, donc au lieu de continuer à discuter et à m'énerver, j'ai tout de suite commencé à me renseigner pour savoir s'il y avait pas un autre problème. Et donc, juste avec cette description-là, de désorienter des propos non cohérents, désolé.
Déjà, ne t'excuse pas.
Oui. Je bois un peu d'eau.
Bois un peu d'eau. Tout se passe bien.
Et là, elle me dit, allez aux urgences.
Direct.
Elle me dit, allez aux urgences. Et je me dis, bon, pour qu'elle me dise ça, c'est grave, elle ne m'a pas donné de détails, je n'ai pas cherché à savoir plus. Donc là, je sors. Mais en plus, après, j'étais trop mécanique. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, allez aux urgences. J'aurais pu interpréter ça par... appeler le SAMU ou les pompiers et ils se seraient occupés du reste. J'avais pas le permis en plus à l'époque, avec ma femme qui avait le permis. Et là, moi, je dis à ma femme, bon, écoute, on va aux urgences. Je viens de parler avec la sage-femme par SMS et elle dit d'aller aux urgences. Et donc, je prends le COSI que j'avais jamais utilisé parce que ça faisait 10 jours qu'on avait que Hugo était là. Et donc, je trempe de partout, je mets Hugo dans le COSI en essayant de comprendre comment les lanières, alors que c'est super simple, mais c'est la première fois qu'on les utilise. Ma femme suit, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle était justement un peu désorientée.
Ah oui, c'est ça, j'allais dire, elle était quand même restée consciente et tout, quoi.
Elle était consciente. En fait, il faut savoir qu'un AVC, et c'est ça le pire, en fait, c'est qu'un AVC, t'es conscient. Et, alors, en fait, non, je suis en train de dire une bêtise. Il y a différentes formes d'AVC. Mmh. Alors, je crois que son type d'AVC, c'est un AVC de type ischémique, je sais pas comment. Enfin, voilà. C'est un caillot, en fait. C'est un caillot qui est arrivé au cerveau, mais il y a ceux où c'est des hémorragies. Elle, c'est ça. Et dans cela, notamment, justement, ça provoque des désorientations et les personnes qui font des AVC ne comprennent pas ce qui leur arrive, généralement. Et là, ma femme, elle, justement, elle se rend compte qu'il y a un problème parce qu'on a le carnet d'allaitement de Hugo et on note la quantité donnée. On était un peu... un peu trop carré, mais
là,
on l'a toujours.
Vous êtes jeune parent. Hein.
C'est ça.
Vous êtes inquiet, non mais sans deck.
Donc on notait si elle avait réussi à allaiter, si c'était le sein gauche ou droit, si on lui a donné un biberon, quelle quantité, etc. Mm. Et elle a voulu noter ça. Et son bras droit ne répondait pas.
Mm.
Sa motricité fine ne répondait pas. Elle arrivait à soulever son bras, elle arrivait à saisir un stylo, mais après elle n'arrivait plus. Et on a toujours ce carnet qui s'arrête ce jour-là. Parce qu'elle a pas pu, elle a dû arrêter l'allaitement. On a cette écriture qui, voilà. Moi, j'ai voulu déchirer la page d'ailleurs, et c'est ma belle-mère qui m'a dit mais non, mais même si c'est un horrible souvenir, tu dois te le garder. Donc on l'a gardé, et voilà. Mais voilà, elle s'en rend compte comme ça, qu'il y a un problème, et donc moi je commande un Uber. Ah, pour aller aux urgences, parce que j'étais dans aller aux urgences et j'avais pas le permis, donc on y est allé. Alors on était juste à côté, on était à même pas 15 minutes en voiture, donc on y est arrivé et effectivement un médecin tout de suite a compris on voyait déjà sur le visage de ma femme la, la, le coin de sa lèvre, ouais. La bouche du côté droit qui commençait à s'affaisser. Et là, monsieur, par contre, vous êtes aux urgences, vous avez un petit qui a quelques jours, il ne peut pas rester là, il pourrait attraper quelque chose, donc on va vous envoyer aux urgences pédiatriques, c'est à côté, et on vous appellera si besoin et tout ça. Et donc là, moi, je... Et c'est là où commence justement de... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ma femme va bien? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais réussir à m'occuper de mon fils, etc. Et vraiment tout un... Presque la même émotion que j'ai ressentie en voyant Hugo, mais toutes ces hypothèses s'effondraient, en fait. Cette même explosion dans le cerveau, mais avec ce côté de... On a le Big Bang et le Big Crunch, quoi. Et en plus, j'arrive dans les urgences pédiatriques. Les infirmières comprenaient bien ce qui se passait, mais ils ne pouvaient rien pour moi. Et puis moi, enfin voilà, donc je restais dans une chambre. Donc j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ses parents, j'ai échangé, Bon, ça a été vraiment le moment le plus déstabilisant de ma vie et. Et vraiment, il faut savoir en fait que j'ai été un timide maladif en fait pratiquement toute ma vie. Et j'ai pris confiance en moi justement quand j'ai fait tout ce travail dont je parlais tout à l'heure, où je savais qu'en fait, au moment où j'ai compris que ce qui me ralentissait dans la vie, c'était pas mes problèmes, c'était pas moi, c'était les bagages de mes parents. Et à partir du moment où je les avais posés de côté, j'ai pu me tester, pousser mes limites pour comprendre qui j'étais ou jusqu'à là où je pouvais aller. Et là, j'avais cette épreuve de la vie, la plus grosse qui m'ait été donnée de vivre. Et là, pendant un instant, j'ai eu tous ces sentiments d'infériorité...
Qui sont remontés,
quoi. Mais jamais tu vas y arriver tout seul. Jamais tu vas réussir à t'occuper d'un enfant sans ta femme, quoi. Et vraiment tout ce moment où je me suis dit, waouh, mais là, il va falloir que tu assures, quoi. Il va plus avoir une équipe pour faire grandir ce petit être. Ça va être toi avec lui. Et il va falloir envoyer.
C'est légitime, non?
De...
Bah, je sais pas, j'ai presque l'impression que quand tu l'expliques comme ça, t'as un peu de culpabilité.
D'avoir ressenti ça.
Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de la culpabilité de ressentir ça.
Alors que je trouve ça tellement légitime. Tu t'as pas fait cet enfant tout seul, quoi.
Oui.
Tu vois. Non, mais clairement.
Oui, c'est vrai.
Et ouais. En fait, en l'espace de 15 minutes, ta vie se retrouve chamboulée autant que les 15 minutes que t'as pu passer 10 jours auparavant, quand ton fils naît. Donc.
C'est... Ouais.
Je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça très légitime de penser ça. Ouais. Tu t'en veux ?
Non, je m'en veux pas. Je m'en veux. Sur le moment, je pense que je m'en suis voulu. Okay. Là, je m'en veux pas, mais parce qu'il y a eu 3 ans d'histoire derrière et il y a eu tout ce que j'ai fait derrière, dont je suis assez fier. Mais à ce moment-là, déjà, je suis juste au 36e dessous.
J'imagine.
Et après, je pense... Alors, est-ce que c'est quelques heures après? Est-ce que c'est quelques jours après? Est-ce que c'est quelques semaines après? Mais je pense que oui, j'ai culpabilisé d'avoir ressenti ça. Parce que, effectivement... par rapport à mon histoire personnelle et ce sentiment d'infériorité et de... ça, tu peux pas le faire, tu sais pas le faire et c'est pas pour toi. Ça revient et du coup, oui, ça te provoque une culpabilité de... Pourquoi je sais pas faire, pourquoi je saurais pas faire et tout ça, et donc oui, il y a une culpabilité à ce moment-là.
Ok, ouais,
c'est vrai.
Donc tu restes là combien de temps en fait aux urgences
alors,
pédiatriques?
Alors du coup, le temps qu'ils fassent tous les tests, on reste bien 2 heures, ce qui me paraît une éternité. Entre temps, la belle-mère de la mère de ma femme arrive. Et là, moi, je suis un peu plus rassuré. Je faisais des allers-retours pour que les médecins m'expliquent ce qui se passait. Donc, c'est là où où ils me disent qu'elle a fait un AVC, que donc là, elle avait perdu la mobilité de son bras droit. Elle pouvait plus le partie droite de son visage. Partie droite de son visage était immobilisée.
Tu bois un coup.
Je suis en train de revivre
bah
la
oui,
scène où
t'es, j'allais dire, t'es venu pour revivre les émotions. Hein,
C'est ça. Ouais. Je viens de revoir en fait la scène où où le médecin me l'explique et que ma femme aussi fond en larmes à ce moment-là à l'hôpital.
Et toi, tu te sens comment?
Là, je me dis à ce moment-là, je craque aussi. Je craque complètement et je me dis qu'il va falloir que je me ressaisisse pour mon fils, pour ma femme aussi, parce qu'elle va pas réussir. Enfin, il va falloir que j'assure pour trois. Et mais j'ai le moment de craquage, quoi. J'ai le moment où je prends dans mes bras ma femme, où elle peut pas me prendre complètement dans ses bras, où j'essaie de la réconforter, mais que moi-même je suis pas en état. Et après je me dis bon, faut que je retourne voir Hugo. Donc j'ai eu ce moment de craquage. Je suis pas encore super bien. En plus, les hôpitaux c'est des méandres. Donc après il faut que je retourne voir mon fils. Et bien sûr qu'il n'y a pas un infirmier ou une infirmière qui a le temps de me servir de guide. Donc je me perds dans les couloirs, j'ai quand même des infirmiers qui m'indiquent. J'arrive finalement à retrouver le service pédiatrique. Là, il y a 5 infirmières, parce que heureusement, ce jour-là, il n'y avait pas d'urgence pédiatrique, il n'y avait pas eu d'enfants malades. Et donc il y avait les infirmières du service qui étaient aux petits soins avec Hugo et qui étaient fans de lui forcément, un petit bébé de 10 jours. Et donc j'ai vu ces 5 ou 6 femmes face à mon fils en train de l'occuper, de sourire, de voilà. Et ça m'a mis du baume au cœur. Et y avait ma belle-mère donc qui arrivait quelques instants après. Et là, j'ai pu dire à ma belle-mère, lui expliquer ce que venait de m'expliquer le médecin, de lui demander de s'occuper d'Hugo. Et puis, il y a eu juste le moment où elle est venue avec moi, pour que le médecin lui explique aussi. Et là, le médecin a dit, bon, par contre, là, maintenant, il faut partir, parce que maintenant, il faut passer un IRM pour voir si le caillot est toujours là. Parce que s'il est toujours là, c'est pas juste le bras droit, en fait, qui va être paralysé, et pas juste le visage, c'est vraiment l'ensemble. Et donc là, on fonce. Première fois où j'étais dans une ambulance, j'ai été assez impressionné aussi de la dextérité des ambulanciers. On va à Bichat, parce que c'était à côté, parce que ils ont un bon service. Voilà. Et donc là... IRM, ensuite attendre des résultats dans le service de neuro et spécialisé. Et puis là, moi, je me prends toutes les visions de plein fouet, parce que là, il y a tous les cas des patients qui ont subi des AVC, des gens qui sont tétraplégiques, qui ont besoin de chaises... C'est plus des chaises roulantes, quoi, c'est des vaisseaux spatiaux. Et je suis pas bien, je suis triste, je croise d'autres personnes. Il y a une dame charmante qui elle venait pour son frère, avec qui on a discuté dans le couloir. Puis elle voit ma femme et elle me dit non, mais vous inquiétez pas. Parce qu'elle elle avait son frère qui était là depuis 3 jours, et son frère il était devenu paraplégique. Donc quand elle avait vu que ma femme arrivait à se déplacer, elle dit ça va bien se passer pour vous. Et bon, c'était pas une médecin, mais Ah, c'était déjà un premier signe que...
Un peu d'humanité.
Oui, en plus. Après, il y a eu vraiment beaucoup d'humanité, hein, je disais, par rapport aux infirmières. Les ambulanciers aussi ont été géniaux. Et c'est vrai que ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'une personne extérieure au corps médical qui rassure aussi, ça fait du bien.
Oui, c'est vrai. Alors que bon, en plus, elle n'en sait rien.
Oui, c'est ça, elle n'en savait rien. C'est juste qu'elle savait que son frère était... Enfin,
ouais, puis ça fait jamais de mal de donner une bonne nouvelle à quelqu'un, en fait. Tu vois, même si t'en sais rien,
c'est
je trouve.
Ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà. En plus, ce jour-là, on avait rendez-vous chez un ORL, parce que mon fils a un frein de langue.
Ok.
Et en fait, on pensait que... Il n'arrivait pas à téter correctement, que l'allaitement ne fonctionnait pas parce qu'il n'arrivait pas à téter correctement, donc il était censé
lui couper le frein.
Voilà. Et à un moment, j'appelle le secrétariat médical parce que j'aime pas, parce que j'aime pas ne pas aller à un rendez-vous, parce que j'aime pas faire faux bond. Mais j'étais pas en état, donc du coup, je suis avec la voix tremblotante au téléphone en disant à la secrétaire « Bon, bah, on va pas pouvoir venir parce que ma femme est aux urgences. » Et la secrétaire, elle était « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et elle était... Et elle m'a appelé à la fin de la journée. Elle m'a appelé pour demander des nouvelles aussi. Donc oui, cette journée-là avait été pleine d'humanité tout du long. J'ai eu des collègues qui m'ont proposé de venir... pour m'aider. J'ai eu un de mes meilleurs amis qui est infirmier lui aussi, mais en addictologie, qui est venu, qui a pris sa journée, qui est venu, et heureusement. Et heureusement, parce que j'ai pu discuter, on a pu... il fallait aller chercher, il fallait revenir à la maison, chercher des affaires.
T'as eu du monde qui t'a aidé, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais ça a été, pour la suite, ça a été notre plus grande chance. C'était notre famille et nos amis. Parce que là, ouais, ça a été... mon fils était donc avec mes beaux-parents. Et ils sont venus en fin de journée. Il se trouvait que mes parents habitaient... pas loin de l'hôpital Bichat en plus. Donc du coup, on a dîné tous ensemble, enfin donc sans ma femme qui était hospitalisée. Mais je suis en train d'aller un peu vite, mais c'est pas grave. Mon esprit, je vais laisser divaguer mon esprit.
Oui.
Et je me souviendrai toujours de ce dîner-là. Où ma belle-mère me dit « Bon, on va s'occuper d'Hugo. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir et tout ça. » Et là, je dis « Non. Si je le prends pas maintenant, que je m'en occupe pas maintenant, je vais tomber dans la facilité et je vais pas vouloir m'en occuper de mon fils. » Enfin, c'est pas que je vais pas vouloir m'en occuper, c'est que je vais me dire...
C'est bon, il y a les beaux-parents qui sont là.
Ils sont là et ils vont mieux le faire que moi, parce qu'ils l'ont déjà vécu alors que moi, j'ai pas d'expérience. Et là, je me suis dit « Non, je vais le faire. » Et c'est moi qui vais m'en occuper, il va être chez lui, et on va réussir et je me souviens vraiment bien de cette discussion là et de ma belle-mère qui n'a pas insisté, qui a compris et qui a dit oui, bon, faisons comme ça. Et ça, c'était impressionnant.
C'est des moments c'est des moments très importants de jonction où à un moment donné, toi en tant que père, t'as la possibilité d'embrasser ce rôle ou alors de te dire, effectivement, t'as raison, peut-être que c'est pas le moment. Et en fait, si t'avais pas eu envie sur le moment parce que t'étais trop crevé émotionnellement et tout, en vrai, si un jour, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui a fait ce choix-là, bah oui, bien sûr, c'est très entendable, en fait. Mais je trouve que c'est intéressant, tu vois, que tu t'es dit, OK. Faut déjà que je rentre dans l'après, en fait.
C'est ça.
Parce que t'es dans l'après.
Ouais. Tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Je suis dans l'après. Oui, ouais, complètement. Et là, ça a été Hugo et moi pendant 3 jours. Moi, avec mon esprit, 3 jours, peut-être même plus. Là, j'ai peut-être plus la notion du temps à ce moment-là. Je ne sais plus combien de temps ma femme a été hospitalisée.
En tout cas, elle n'a pas été hospitalisée que 24 heures, quoi. C'est, non. Ça a duré.
Voilà, okay. Ça a duré plusieurs nuits.
Ça s'est bien passé.
L'hospitalisation.
Non, je parlais avec ton fiston, avec mon fils, pardon. On reviendra sur ta femme.
Avec mon fils, ça s'est super bien passé. Il n'y a eu aucun souci. Je connaissais les gestes, je savais ce qu'il fallait faire, je savais. On était vraiment une équipe, donc en fait, il n'y a pas eu une tâche qu'on s'était confiée, okay. Et c'est que l'un qui faisait quelque chose et l'autre qui faisait l'autre. Non, on a tout fait ensemble. Donc du coup, en fait, tout s'est bien passé.
C'est un beau cadeau hein, que tu t'es donné là, le jour où tu t'es dit, ok, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'apprendre les premiers gestes, etc., etc., quoi, tu vois.
Fallait... C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Tu t'es empêché, entre guillemets, de devoir en même temps découvrir tout ça, en même temps que de stresser pour ta femme, etc. Quoi. C'est ouf. Hein.
Ouais. Et là, pour le coup, c'est pour ça, c'est que je suis assez fier de ce moment-là. Ça a été horrible à vivre, mais je suis fier de toute cette expérience-là et tout ce qui s'est passé ensuite. Et tout ce que j'ai fait, alors qu'à une certaine époque, effectivement, je me serais dit, c'est impossible. Tu peux pas surmonter ce type d'épreuve, tu peux pas bien faire les choses. Alors, je pense que j'ai pas fait parfaitement les choses, parce qu'on est tous humains.
Tant ton fils est toujours en vie.
Voilà,
je veux dire, à un moment donné où
c'est ça, exactement.
Il va bien, il est en bonne santé.
Ouais.
Comment va ta femme pendant ce temps-là? Comment va Sarah?
Mal. Mal, moralement, physiquement. Ma femme, je trouve plus le mot. C'est une énergie, quoi. C'est. Ma femme, elle éclate de rire. On l'entend à 4 km à la ronde, quoi. Elle a une énergie, une positivité. Autant moi, je suis quelqu'un qui doutait énormément, qui avait un sentiment d'infériorité impressionnant. Autant elle, c'est bah non, je sais faire ça, on peut faire ça. Bon, même si je sais pas le faire, on va apprendre. Allez, on fonce, on y va. Et là, elle se retrouve à faire un AVC. Et elle sait plus qui elle est. Et tout s'effondre pour elle. Son univers s'écroule. Elle peut plus faire quelque chose d'aussi simple que de parler ou d'écrire, parce que du coup, au niveau du visage, c'est sa langue aussi, une partie de sa langue qui est paralysée. Elle est droitière, elle peut plus rien faire avec sa main droite. Et surtout, ils n'ont pas d'explication. Ils savent pas pourquoi elle a fait un AVC. Un AVC, c'est généralement, quand on pense à AVC, on se dit, bon, bah, c'est parce qu'on mange trop gras, trop sucré, parce qu'on fume, parce qu'on boit beaucoup d'alcool et tout ça. Ma femme n'a jamais fumé, ouais. Elle a toujours fait beaucoup de sport, mangeait toujours très équilibré, et donc il y a un sentiment d'injustice, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et en plus, ma femme a été très rarement malade. Donc en plus...
C'est pour elle, c'est de 0 à 1000, quoi.
Voilà, c'est ça. Tout est nouveau pour elle. Bon, alors, bon, pour quelqu'un qui fait un AVC, tout est nouveau. Mais là, il y a quelque chose qui la dépasse complètement. Et surtout, elle a un sentiment non seulement d'injustice par rapport à ça, par rapport à son corps, ce qui arrive... Mais aussi par rapport de, mais non, mais laissez-moi kiffer ma vie avec mon fils, et je peux pas kiffer ma vie avec mon fils. Je veux y aller, quoi. Après, justement, toute cette période-là, ensuite, a été assez perturbante pour tout le monde. Moi-même, je voyais plus la femme d'avant, mais je veux pas dire physiquement, je veux dire vraiment moralement. Il y avait vraiment d'une personnalité énergique. Elle a eu vraiment beaucoup de doutes qui sont arrivés, etc. Mais par contre, cette énergie, cette force qu'elle a, cette volonté qu'elle a toujours eue. Et moi, c'est un truc qui m'a impressionné chez elle. C'est-à-dire que on lui disait, bon, bah, pour retrouver toute la motricité de votre bras, il faut faire tels exercices, le visage, etc., 3 fois par jour. Mais il faut voir aussi que quand on fait un AVC, donc c'est le cerveau qui est atteint, et le cerveau, bah, quand il récupère, bah, ça entraîne une fatigabilité énorme. Elle faisait autant de siestes que Hugo. Et elle faisait des nuits, mais de 12 heures. Et l'immeuble aurait pu s'effondrer, elle ne se serait pas réveillée. Quoi. Et malgré toute cette fatigue, elle a eu une volonté. Enfin, j'en aurais fait 2 fois moins qu'elle au niveau de la rééducation.
Mais tu sais pas. Mais
non, je sais pas.
Tu projettes un truc, je crois. Mais...
Je projette quelque chose, mais quand même, ça a été impressionnant.
Après, les mecs, on est globalement assez nul avec nous-mêmes, tu vois, on prend pas vraiment soin de nous. Non, mais je crois qu'il y a
ce truc aussi, tu vois. Non, mais c'est
vrai. On n'arrive pas vraiment à prendre soin de nous, on aurait plutôt tendance à faire, bon, bah, écoute, hein, désormais, j'ai un bras qui fonctionne à moitié, bon, bah, let's go, on y va, quoi, tu vois. Ça. On va faire ça avec, on va faire avec.
C'est exactement ça.
Ouais.
Alors qu'elle, elle y allait, elle avait récupéré à un moment.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait de la rééducation, c'est ça? T'as des exercices?
Beaucoup de rééducation. Elle a eu kiné, ergothérapeute. Elle a vu une ostéo. Elle a eu pour le bras, pour la langue, pour le visage. Elle a eu de l'orthophonie. Ça a été beaucoup. Voilà. Une fois que l'hospitalisation a fini, en fait, ça a été vraiment. Ils lui ont dit, bon, bah, voilà, c'est arrivé. On n'a pas trouvé la cause. Mais par contre, donc c'est pour ça qu'il l'avait aussi gardé en observation pendant toute la semaine, peut-être 10 jours, pour voir si ça revenait, en fait. Et c'est pas revenu. Et donc, ils ont dit, bon, c'était un caillot. On l'a pas trouvé. Il a dû se désagréger. Il était plus dans le cerveau. C'était le premier IRM qu'elle avait passé. Donc ça, il le savait. Donc il l'avait gardé en observation juste pour savoir si ça allait revenir, s'il était quand même présent, s'il y avait des caillots qui se formaient ou pas. Et on n'avait pas la cause. On savait pas pourquoi. Et l'hypothèse que nous on formulait, mais que la neurologue et cardiologue ont pas formulé, et on dit, bah non, la neurologue même avait dit, bon, c'est à plus de 3 jours après votre accouchement, donc c'est pas lié à votre accouchement. C'était étrange quand même. Et nous on s'était dit, bon, bah c'est lié au déchirement et à la cicatrisation, il y a eu un caillot qui s'est détaché et il a circulé, il est arrivé jusqu'au cerveau, etc. Bon, on n'est pas médecin, c'est des hypothèses. Et les médecins, eux, nous disaient, on ne sait pas.
Ouais.
Et ils disaient vraiment, mais on ne sait pas, on ne peut pas vous dire, oui, c'est ça, on ne sait pas. Et ça, ça a été quelque chose de très, très compliqué. C'est la fameuse épée de Damoclès dont je te parlais tout à l'heure.
Okay.
C'est vraiment de, bah, pourquoi? Et c'est ça, pour ma femme, c'est compliqué, parce qu'elle, elle était sûre d'elle. Elle savait, elle se connaissait, elle connaissait tout d'elle. Et là, il y a un moment, il y a un signal de son corps de dire, bon, tu sais pas ce que je peux faire, mais il y a un moment, je peux te mettre vraiment patraque, quoi.
Patraque, c'est un doux euphémisme.
Oui, c'est ça.
Je voulais te demander, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis les 3 ans que tu m'as écrit? Parce que, si je me trompe pas, quand tu m'as écrit la première fois, vous étiez...
On était encore en plein dedans.
Ah, vous étiez encore en plein dedans, ok.
Ouais, c'était au mois d'octobre, comme tu le disais. J'avais oublié que c'était le mois d'octobre. Ouais. Je savais que c'était... Que ça devait être dans les... Je pensais que c'était dans les 6 mois que je t'avais écrit. Parce que du coup, en fait, moi, je m'étais mis en mode... warrior, quoi. Je me suis dit, ok, maintenant, ta vie, c'est de faire en sorte que Hugo, il grandisse bien, qu'il ne se rend pas compte qu'il y a une problématique et que tout se passe bien pour ta femme. Et en plus, pour moi, professionnellement, il se passait des choses, mais je vais peut-être en parler un peu après. Et donc, je me mets en mode vraiment warrior, et là, à partir de ce moment-là, je fais toutes les nuits. Je m'organise avec les amis, la famille. on fait des calendriers, j'envoie des emails, je dis bon alors qui peut être là à tel moment, etc. Parce que bah, Sarah devait faire des siestes, moi je faisais les nuits, on avait un fils qui faisait pas ses nuits du tout, c'était un morphal, il voulait manger toutes les 3 heures.
Ça aurait été trop simple.
Et parfois même plus que toutes les 3 heures, oui ça aurait été trop simple. Et donc du coup moi j'avais besoin de récupérer à un moment ou un autre quoi, j'avais besoin de... Et là moi j'avais aucun scrupule, bon, après je le faisais pas, j'étais pas désagréable, mais j'avais la personne qui venait, j'expliquais si elle savait pas ce qu'il fallait faire, ce qui... Et moi j'allais me coucher, je faisais ma sieste quoi, et puis la sieste...
C'est même pas une question de scrupule, c'est une question de survie à un moment donné, voilà, c'est juste pour être opérationnel, ça. Faut dormir quoi, tu vois, donc culpabilise pas d'aller te reposer.
Ouais, mais c'est marrant, parce que je m'en rends plus compte de que je culpabilise sur certaines choses, mais c'est vrai que bah, ça fait partie de ces fameux bagages dont je parlais, la culpabilité, c'est vrai que c'était très ancré sur la moindre action, et c'est vrai, oui, tout à fait.
T'as bien fait de déposer les bagages
ils étaient lourds.
De tes parents dont tu parles.
Ouais, ils étaient lourds.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, alors, 3 ans plus tard?
Alors, 3 ans plus tard, on en est qu'effectivement, Sarah, elle a récupéré, ça a été long, la convalescence a vraiment duré 3 ans. Parce que même si au bout de 6 mois, 9 mois, elle avait récupéré la mobilité de son bras, elle avait récupéré la mobilité de son visage, elle s'exprimait plus facilement. Et c'est justement la rééducation, tous les gestes, tous les exercices qu'elle a fait qui a continué, la fatigabilité qui a continué, donc des siestes dont elle avait besoin. Elle a repris une vie professionnelle, mais ça a été à coup de mi-temps thérapeutique, à un certain pourcentage régulier, etc.
Puis j'imagine que si elle était très active, c'était compliqué pour elle aussi de ne pas se remettre au boulot. Ça contribue peut-être même à aller un peu mieux, quoi, tu vois, je sais pas. Alors, psychologiquement, peut-être, non?
Non.
Ok.
Parce qu'elle pouvait moins en faire.
Ah, oui, ok.
Tu vois?
Elle n'était pas très sympa avec elle-même, c'est
non,
ça?
Non, elle est trop exigeante vis-à-vis d'elle-même. Quand elle travaille, elle est à fond, elle est à 200%. Oui, et là, il y avait son corps qui lui disait « Wow, 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 non, là, ta barre d'exigence, c'est pas possible.
Okay. »
Et là, ça a été très, très complexe.
Ça lui a appris à être un peu moins exigeante avec elle-même?
Je pense, ouais. Elle saurait mieux le dire que moi, mais je pense, ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose où elle s'est rendue compte qu'effectivement, il fallait qu'elle réadapte ses attentes par rapport au contexte, quoi.
Donc au bout de 6-9 mois, elle a récupéré, c'est ça?
Voilà, en fait, on sort d'une période effectivement où elle reprend un peu plus, ses nuits sont moins longues. Alors je suis pas sûr qu'elle fasse encore les nuits. Je pense que j'ai continué les nuits encore longtemps, je pense, parce que mon fils après le fait que
parce qu'un jour il finit par faire ses nuits, cet enfant.
Il les a fait très tardivement parce qu'en fait il a fait très tôt ses dents. Il les a fait à 4 mois.
Ah oui.
sa première dent, et après ça a été que des problèmes de rhume chronique. Donc en fait, c'était même plus qu'il avait faim, c'était juste qu'il avait mal partout. Et voilà. Et donc du coup, voilà. Et donc c'est là où moi j'avais, où je me suis dit, waouh, j'ai réussi à surmonter le plus dur, quoi. Et quand je t'ai écrit cet email, c'était vraiment de, j'ai réussi à le faire, je sais le faire. Et c'est à ce moment-là, je voulais partager cette expérience-là. Seulement, moi, j'étais dans un sentiment qui était différent de celui de Sarah. Sarah, elle était dans je sais plus rien faire. Alors que moi, j'étais dans je sais faire, je peux le faire. Et puis, je peux dire à tout le monde, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire, en fait. Si j'ai réussi à le faire, c'est que forcément, tout le monde y arrive. Et c'était galvanisant pour moi. Et puis, surtout,
Excuse-moi, mais c'est fou quand même que ta femme ait été obligée, tu vois, de perdre la mobilité d'une partie de son corps pour que toi, tu puisses prendre ta place complètement, quoi, en tant que père. Pour que tu te... Tu vois, j'ai l'impression aussi que ça t'a permis de prendre confiance. Alors, bien sûr, j'imagine que ça n'a pas été aussi simple que ça, tu vois. Je dis ça avec le recul aujourd'hui et tout, tu vois. Mais ça en dit long, tu vois, sur à un moment donné, effectivement, faut y aller, faut prendre sa place. Et ouais. T'as pas eu le choix.
J'ai pas eu le choix. Après, on était une équipe. Hein. On était en train de prendre la place, on était en train de construire quelque chose. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, oui, on est une équipe. Il y a le 1 plus 1, mais en fait, il y a aussi le 1. Et en fait, ça se déséquilibrera pas. Mmh. Alors, je ne souhaitais pas cette conséquence, mais il y avait eu effectivement la prise de conscience de mon côté, c'est je sais faire seul aussi. Mmh. C'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre que... Enfin,
ouais,
il y a l'équipe, certes. Et je pense que j'aurais pris cette place d'équipe, et c'est ce qui est actuellement le cas.
Bien sûr.
Mais en plus, il y a la conscience de... ma femme... J'étais persuadé que ma femme pouvait prendre la charge seule si ouais. Enfin voilà, parce que c'est une mère et que voilà. mais là maintenant je suis convaincu que moi aussi quoi, il y a aucun souci et on est dans l'équitabilité.
Pour revenir à Sarah, donc ouais. Tu disais que il y a 3 ans elle était plutôt dans ce truc de en fait moi j'arrive plus et toi ouais. Tu donc il y avait une forme de déséquilibre entre vous, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et là, moi, j'ai beaucoup. On a beaucoup parlé à ces moments-là parce que elle, en plus, elle avait l'impression de ne rien faire par rapport à son fils et qu'elle avait loupé les premiers mois de la vie de son fils.
Mmh, la bonne culpabilité de maman.
C'est ça.
La mère indigne.
et c'est moi qui lui ai souvent rappelé, et même encore récemment, qu'en fait, elle, dès qu'elle était réveillée, dès qu'elle. Bah oui, certes, elle faisait ses exercices, rééducation, tout ça. Mais après, par contre, elle était tout le temps avec lui. Lui, il a... Je pense que réellement... Alors, il a peut-être emmagasiné quelque chose de cette période-là, parce que c'est ce qu'on nous disait souvent, c'était que les bébés à cette époque sont des éponges, donc ils absorbent les émotions, les événements,
etc. Oui, peut-être,
etc.,
tu vois, de la voilà. Peur, etc. Mais...
C'est ça. Mais je pense que derrière, il a aussi ressenti tout l'amour qu'on pouvait lui porter. Elle et moi individuellement vis-à-vis de lui et les deux vers lui quoi. Donc et puis même je pense que du coup il a bénéficié aussi de tout le soutien des amis et de la famille qui venaient en plus. Donc
je dis souvent il faut un village pour éduquer un enfant,
vrai.
Tu vois.
Ouais, ouais,
bah, c'est cool que tu aies une tribu, n'empêche.
Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement, d'avoir tous ces amis et cette famille.
Comment va Sarah aujourd'hui?
Sarah, elle va très très bien. Elle va très très bien.
Qu'est-ce qui s'est passé alors au mois de juillet où tu parlais d'une épée de Damoclès?
Au mois de juillet, elle a eu rendez-vous. Donc, elle a des rendez-vous réguliers. Hein, neurologue, cardiologue, tout ça. Et quand elle est allée voir sa neurologue, elle lui a dit « Mais bon, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ne sait toujours pas. » D'où ça vient. Donc moi, si je me lance dans un deuxième, je le vis comment? Je fais comment?
Oui, parce qu'elle avait toujours ce truc de c'est lié à l'accouchement, quoi.
Exactement.
En tout cas, une possibilité.
Voilà. Oui, okay. Exactement. Et en fait, d'ailleurs, une des premières phrases de la neurologue, quand elle était venue donner le diagnostic dans la chambre, sa première phrase, ça aussi ça m'avait marqué, c'était « Ce n'est pas lié à votre accouchement, vous pourrez en avoir, vous pourrez être de nouveau enceinte. » Donc là, je pense que cette neurologue avait bien conscience de la chose. Et donc je pense que quand Sarah lui a reposé la question, je pense qu'elle s'est sentie un peu aussi... elle s'est dit « Ah non, là il faut vraiment que... » pas que je lui donne une explication pour lui donner une explication, mais il faut que je trouve la bonne chose à lui dire, etc. Alors je sais pas, j'étais pas là à ce rendez-vous-là, mais apparemment elle a reparcouru le dossier et puis elle s'est rendue compte que il y avait peut-être un examen qui a pas été super bien fait et donc elle a demandé à refaire l'examen. Et il se trouve qu'apparemment, effectivement, alors je sais pas pour quelle raison, hein, peut-être que les techniques ont changé, que on le fait plus exactement de la même manière, etc. Et en fait, il se trouve que elle a refait donc exactement le même examen. Et donc, on a la cause. En fait, c'est un FOP. Alors, c'est des initiales, je sais pas. C'est des mots compliqués.
C'est en anglais, ouais.
Non, je pense que c'est en français.
Oui, mais c'est des termes barbares.
Issus du latin, enfin, voilà. Et en fait, c'est un trou entre les deux ventricules qu'on a à la naissance, qui pour je sais plus combien de pourcents, 20% de la population, ça ne se referme pas. Et la plupart des gens qui ont ce FOP, c'est pas grave, ils vont vivre avec toute leur vie sans aucun souci. Et pour certains, c'est un passage possible pour un caillot qui va passer dans l'autre ventricule au lieu d'être filtré correctement et qui va remonter, hop, direct au cerveau. Et donc il y a ce FOP, et il se trouve qu'en plus ce FOP, quand il y a un effort physique intense, il s'élargit.
Ah, ok.
Voilà. Donc c'était pas lié forcément à l'accouchement, mais quand
directement,
même un peu.
Mais, un peu, ouais. Mais voilà. Bon, elle aurait pu avoir le même en allant faire un jogging ou...
Voilà. C'est ça. Okay. Ça aurait pu avoir d'autres conséquences à un autre moment, effectivement. Et il se trouve que c'est une opération qui est super simple pour refermer le FOP. Enfin, super simple. Je pense que si un médecin entend ça, il va peut-être se dire oui, bon, on en fait souvent, mais c'est pas
oui,
si simple.
Oui, c'est ça, c'est
ça.
Plutôt. C'est une opération bénigne, quoi.
Voilà, c'est une opération bénigne, c'est fait en ambulatoire. Non, je dis des bêtises. Ça se fait en ambulatoire dans certains hôpitaux, mais dans celui-ci, elle avait passé la nuit. En fait, ils insèrent un petit dispositif qui s'ouvre comme un parapluie et qui
va
boucher.
D'accord.
Donc, c'est pas à cœur ouvert. Et ça a été la libération, quoi. Ça a été... c'est bon. Le corps, il est réparé. Et on n'a plus d'épée de Damoclès derrière. Donc on peut juste se concentrer sur la suite, quoi. Sur nous. Et se poser un peu moins de questions là-dessus.
Et pour... t'en profites pour venir parler dans Histoire de Daron.
C'est ça,
de raconter
exactement.
Ton histoire.
Voilà.
Et de revivre un peu les émotions.
C'est ça, exactement.
Merci pour ce partage. J'ai la dernière question qu'il faut que je te pose. Tu la connais?
Si tu écoutes le podcast.
Si dans 10 ans, Hugo écoute ce podcast.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Eh ben, j'ai envie de lui dire. J'ai envie déjà de lui poser la question de est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as intégrées? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais actuellement par rapport à ça, ou pas du tout, ou est-ce que c'est ou est-ce que limite ça serait un événement qui serait devenu anodin, anecdotique, et que en fait limite si l'entend ce podcast et que c'est la première fois qu'il entend parler qu'il y a eu ça, si ça se trouve, hein, peut-être que il y aurait plus de raison d'en parler. Et est-ce que
je me dis que ça va aussi un peu dépendre de l'histoire que vous lui racontez.
C'est ça, exactement. Et je pense qu'on lui en parlera parce que de toute façon on parle facilement. J'espère surtout qu'il y a un dialogue qui s'est bien installé entre lui et moi. Et que si jamais il s'est pas installé, qu'il n'hésite pas à poser des questions.
Parce qu'il aura 13 piges en 10 ans, c'est ça?
Il aura 13 piges, ouais.
C'est l'âge ouais. Hardcore.
C'est ça. Oh, il est déjà pas mal là. 3 ans là. Il est déjà pas mal. Et justement, moi, je suis quelqu'un qui suis patient avec tout le monde. Mais pas avec ma famille proche. Et ça, c'est horrible. J'ai aucune patience. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça pour ma femme, pour qu'elle ne subisse pas cette impatience et cet énervement que j'ai. Et pour mon fils, j'ai fait le travail là que très récemment, et j'espère qu'il le subit pas là jusqu'à ses 13 ans, cette exaspération et cet énervement que je peux avoir, parce que j'attends de lui qu'il comprenne ce que je lui demande tout de suite, et que je lui demande la même ce que j'exige envers moi-même, je l'exige vis-à-vis de lui. Et voilà, donc j'espère que ça pas créé un mur entre nous et qu'à 13 ans, on a un dialogue qui est fluide. J'espère que ça sera quelqu'un d'épanoui et qui, que justement, je lui aurais pas filé un bagage qui l'empêcherait de...
Je crois qu'on file tout. Enfin, faut faire la paix avec ça. Voilà. On file tous des bagages à nos enfants.
Je veux juste qu'ils soient un peu légers, quoi.
Voilà, c'est
un
ça.
Petit
ça
sac, un petit sac de sport, quoi.
Exactement.
Pas la cantine.
Ouais. faut qu'on fasse la paix avec ça, de toute façon.
C'est vrai.
Ouais. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi.
C'était vraiment très chouette. J'espère que ça t'a fait du bien de venir raconter
tout à fait.
Ouais. Puis merci pour tes émotions. Merci de les avoir partagées au micro. Je vous souhaite une belle vie à tous les trois.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.